Radio Okapi. À la présentation du journal, Jocelyne Moussaou Pondé.
Localités de l'Ituri situées sur le tronçon dénommé Axe de la Mort sont vidées de leurs habitants. Seuls les militaires FARDC sont visibles dans certaines entités. Le constat est d'une délégation de la mission des Nations Unies dans le territoire d'Irumu. Des sujets chinois dans l'exploitation artisanale de l'or depuis un mois à Wamba, dans la province du Haut-Ouélé. La société civile dénonce et interpelle les autorités attitrées à faire respecter les textes légaux de la République. Jean-Marie Kassamba est notre invité ce soir, l'ancien coordonnateur de la cellule de visibilité des travaux réalisés dans le cadre du contrat sino-congolais, parlera de l'évaluation de ces travaux par des experts internationaux et nationaux. Bonsoir à tous. Commençons en Ituri. Environ 15 localités sur le tronçon Loya-Mambelenga, dénommé Axe de la Mort, sont vidées de leurs habitants. Seuls les militaires des FARDC et des épaves des véhicules brûlés sont visibles dans certaines entités. Constat fait par une délégation de la MONUSCO qui est en mission dans cette partie du territoire d'Irumu, où les rebelles ougandais de l'ADF sont actifs. Le reportage d'Isaac Raymond est rendu par Jean-Claude Loki.
Personne n'ose s'engager sans escorte sur cette route qui est inhabitée sur une distance d'environ 50 km. Tous les habitants des localités de Loya, Sokotano, Mafifi, Sessa, Ofai, Ido, Ndimu, jusqu'à Mambelenga ont abandonné leur maison et activité la suite des exactions des rebelles des ADF dont les empreintes sont visibles dans chaque village, maison ou véhicule incendié, boutique pillée. À chaque kilomètre, on voit l'ombre de la mort, sauf à certains endroits où il y a la présence des FARDC. Toutes les victimes et les usagers de route souhaite le retour de la paix dans cette région. Il plaide pour le lancement rapide des opérations militaires en vue de mettre fin aux scènes de violence perpétrées par ce groupe armé des ADF qui fait parler de lui chaque semaine. Du côté de l'armée, on affirme que les FARDC traquent ces rebelles en attendant les opérations de grande envergure. En attendant aussi, c'est grâce aux escortes conjointes de la MONUSCO et des FARDC que les véhicules civils peuvent emprunter cet axe devenu extrêmement dangereux, à la plus grande satisfaction des populations des deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Bounia, Jean-Claude Loki Dile, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, les activités économiques ont été paralysées ce lundi dans la ville de Butembo. La société civile a appelé les habitants à observer une journée sans activité en solidarité avec les membres des communautés qui ont perdu les leurs dans différentes attaques de rebelles ougandais de l'ADF dans la région. À Butembo, une correspondance de Sadiki Aboubakar.
Il s'agit d'une journée dite de deuil, décrétée par la coordination de la société civile urbaine. D'après Van Germé Katiwa, son premier vice-président, il s'agit d'une façon de compatir avec les familles de toutes les victimes de massacres perpétrés par les rebelles dans la région. La journée est également dite de réflexion car, selon les organisateurs, tous les acteurs sociaux sont appelés à réfléchir sur des actions à mener en vue de barrer la route à l'ennemi. Depuis le matin, le mot d'ordre de la société civile est suivi dans la ville. Toutes les grandes activités commerciales sont restées paralysées. Quelques petits commerçants seulement, en majorité des marchands des produits vivriers, ont ouvert au marché central. Le long du boulevard Président de la République, presque toutes les portes des magasins et des galeries de commerce n'ont pas ouvert. Les banques ont juste fermé leurs portes principales, laissant ouvertes les petites portes pour recevoir les rares clients qui se présentent. Bien que timide, la circulation est restée normale dans la ville. La même situation a été observée dans les rues secondaires et quartiers périphériques du centre commercial, où tout fonctionne comme d'habitude. Jusque midi, aucun incident n'a été signalé. Butembo, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Et puis, les activités économiques ont tourné au ralenti ce lundi dans la matinée dans la cité d'Oicha. La société civile de cette commune rurale du territoire de Beni a, elle, appelé les habitants à une journée de grève pour protester contre la recrudescence de l'insécurité dans la région. Selon plusieurs sources sur place, le mot d'ordre de la société civile a été suivi partiellement. Les marchés et les petits commerces ont fonctionné normalement, mais les grandes activités commerciales sont restées paralysées alors que les banques ont reçu quelques rares clients. La circulation est restée normale. Dans le Haut-Katanga, Justicia Icebell, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Lubumbashi, plaide pour que justice soit rendue aux femmes qui étaient victimes des viols dans la prison de la Kasapa. C'était au mois de septembre 2020, lors d'une tentative d'évasion. À cette occasion, plusieurs dégâts matériels et humains avaient été enregistrés. Des précisions avec le président de cette Icebell, Timothée Mbuya, est au micro de Jean Gandou.
Une année déjà, jour pour jour, depuis que survenaient les émeutes à la prison centrale de la Kasapa, émeutes commanditées par les détenus eux-mêmes de l'intérieur, pendant 3 jours, les prisonniers ont été abandonnés à leur propre triste sort. De ces émeutes, des dégâts humains et matériels importants ont été enregistrés, c'est notamment la mort de plusieurs personnes, les viols de plusieurs dizaines de femmes, l'incendie des bureaux administratifs, y compris les dépôts d'alimentation ainsi que les dispensaires. Jusqu'à ce jour, aucune enquête sérieuse n'a été menée en dehors d'une audition sommaire commencée par les parquets près les tribunaux des grandes instances de Lubumbashi. Justice regrette donc qu'une année après, les victimes ne puissent pas avoir droit à la justice et que le bourreau continue à courir les villes. Justice demande des mesures soit prise urgemment par le gouvernement national afin d'aider à la reconstitution des dossiers physiques pour permettre de désengorger la prison, car à ce jour, plusieurs détenus sont en situation d'irrégularité.
Reconstruire après la crise, tel est le titre de l'ouvrage de 258 pages présenté le week-end à Kananga par le professeur Grégoire Ngalamouloumé. Cet enseignant des universités revient sur les conflits Kamuina-Sapou qui a secoué la région de 2006 à 2007. Il affirme que cette crise, née de la gestion du pouvoir coutumier, doit interpeller les acteurs impliqués. Au micro de François Kadima, il propose 3 chantiers pour faire avancer le Kasaï central.
3 chantiers prioritaires que nous devons construire et placer la province sur la voie de son émergence. C'est notamment le chantier humain consacré au changement de mentalité, au changement de comportement. Le deuxième chantier, il est le chantier des infrastructures que nous devons moderniser, que nous devons transformer. Les routes prioritaires, la route Kalambambouji, la route nationale numéro 1, les routes de desserte agricole. Nous avons les infrastructures énergétiques, notamment la centrale de Katende, qu'il faudra terminer pour produire de l'énergie fiable au niveau de la province. Le dernier chantier qui est prioritaire, c'est notamment l'amélioration de la gouvernance et du leadership au niveau de la province pour remobiliser l'ensemble de la population, remettre la population au travail dans une dynamique positive, rassembler toutes les énergies positives pour pouvoir restaurer l'autorité de l'État, consolider la paix, mais en même temps lancer la province dans une dynamique de développement durable.
L'actualité, c'est aussi la poursuite ce lundi à Uvira, au Sud Kivu, de la 4e édition du festival Amani Usalama na Maendeleo à l'Institut Zawadi et à Raisi. Des jeunes venus de Goma, de Bukavu et de Fizi organisent des activités sportives avec des policiers. Il y a aussi de la musique, des poèmes et des conférences débats, selon le coordonnateur de l'ONG CGDR, initiateur des assises. Pelelo Amissi est au micro de Fiston Goma Mayabala.
À la jeunesse, le message est de dire aux jeunes que vraiment il faut s'approprier toutes les initiatives qui cadrent avec la promotion de la paix et la cohabitation pacifique. Il faut se débarrasser avec tous les politiciens, les hommes politiques qui veulent nous diviser, qui veulent tirer leurs ficelles en leur faveur, et nous resterons toujours victimes de tout ce qui se passe. Nous voulons appeler la jeunesse vraiment de rester soudée, de ne plus regarder celui-ci et de quelle tribu pour être ensemble, et surtout nous appelons à la jeunesse de voir comment même se marier, parce que aussi il y a des coutumes qui ne veulent pas se marier avec d'autres communautés qui est à la base des divisés tout comme ça. De rester soudés et surtout la cohabitation, que ce soit vraiment un mot qu'il faut développer dans l'air quotidien. Et à la communauté locale qu'internationale, de voir comment appuyer les initiatives des jeunes. Parce qu'à Ouvir, il n'y a pas de centre des jeunes, il n'y a pas de maison d'exposition des jeunes qui peuvent permettre aux jeunes au moins d'exposer leurs œuvres et voir comment gagner leur vie à travers leurs potentialités.
En bref, les mises en place dans les universités congolaises se poursuivent. C'est lundi, le ministre de l'ESU vient de nommer le nouveau dirigeant de l'université de Kinshasa. Le professeur Jean-Marie Kayembe est nommé recteur, le professeur Banza, secrétaire général académique, le professeur Lapika, secrétaire général administratif, le professeur Chimpi, qui a confirmé cette information à Radio Okapi, secrétaire général à la recherche. Pour sa part, Madame Ndouangani est nommée administrateur de bureau. Au Kasaï oriental, le calme est revenu en Mbujimayi après les troubles entretenus cet avant-midi par les étudiants de l'UM et de l'UOM. Pour calmer les étudiants de l'UM, dont la faculté de médecine a été supprimée, le gouverneur de province intérimaire a promis de s'investir pour trouver une solution à leurs revendications. Deux étudiants qui ont été arrêtés dont les troubles sont toujours gardés au cachot de la mairie de Mbujimayi. Rappelons que les étudiants de l'UM et de l'UOM étaient dans les rues de Mbujimayi et ceux de l'UM se sont insurgés contre la décision du ministère de l'ESU, tandis que ceux de l'UOM n'approuvent pas la date de l'échéance de l'enrôlement à la première session fixée par leur institution. Toujours dans le secteur de l'enseignement, à Beni, les membres du syndicat des enseignants du Congo et ceux des écoles conventionnées catholiques conditionnent la reprise des cours par l'amélioration de leurs conditions de vie. Ils l'ont décidé lors d'une assemblée générale tenue hier dimanche. D'autres précisions avec le secrétaire permanent du dit syndicat, Christophe Kanyamboué, est au micro de Guylaine Kassassia.
Il n'y aura pas vraiment rentrée si les points suivants ne sont pas observés. Entre autres, nous avons parlé du paiement de tous les enseignants NUI. Vous allez vous rappeler que c'est à cause de vouloir aider l'État à chercher un couloir de vie pour les NUI que nos camarades directeurs ont été suspendus. Deuxièmement, nous avons parlé de la suppression des zones salariales. Troisièmement, on a parlé du paiement des trois paliers promis dans les différentes circulaires du secrétariat général de l'EPST autour de la gratuité. Et ensuite, nous avons parlé de la levée des suspensions des chefs d'établissement. Chacun s'est déjà justifié et jusqu'ici, aucun d'eux n'est rétabli dans ses droits. On a parlé de la révision de la circulaire de Madame le ministre provincial de l'EPST Nord-Kivu qui dit que l'argent doit venir de l'école secondaire pour aller payer les NI à l'école primaire. C'est une façon de se cacher derrière la gratuité puisque les mêmes parents qui a payé trop au secondaire, c'est lui qu'on demande maintenant d'aller de ses frais, qu'on prenne les frais pour payer l'enseignant au primaire.
Rendons-nous dans le Haut-Uele où, je l'ai dit dans les titres, la société civile du Congo pour le territoire de Wamba s'oppose à l'exploitation artisanale de l'or par des Chinois qui s'y trouvent depuis environ un mois. Dans un communiqué publié le week-end dernier, cette structure citoyenne interpelle le président Félix Tshisekedi et le ministre des Mines pour qu'ils fassent respecter l'interdiction de l'exploitation minière artisanale par des étrangers. À Kisangani, Jacques Mkonkole.
La société civile explique que l'article 19 bis et 111 du code minier congolais interdisent l'exploitation artisanale des minerais à tous les étrangers. Pour Patrick Ambaïso, président de cette structure citoyenne, le séjour des Chinois à Wamba est illégal. En réaction, le ministre provincial en charge de l'intérieur et sécurité déclare que leur présence à Wamba a pour objectif notamment d'appuyer les coopératives minières locales. Crispin Alibou.
Nous sommes en train de créer de plus en plus de VA pour permettre aux Congolais de se recouvrir. Et voilà pourquoi les Chinois qui viennent avec des matériels l'intègrent les coopératives congolaises et ils essaient d'accompagner les Congolais. Et maintenant, les gens, ils interprètent comme les Chinois venaient travailler demain, boiter de l'or illégalement.
La société civile croit plutôt le contraire. Les Chinois sont là pour exploiter à leur propre compte. Patrick Ambaïso.
Ce n'est pas pour accompagner les orpailleurs qui sont sur place. Puisque si tel est le cas, on devrait déjà appeler tous ces orpailleurs au niveau de la chefferie pour échanger avec eux. Mais même les chefs de chefferie, même les chefs de groupement, même les chefs de localité, les dossiers, les projets passent au-dessus de leur tête. Ils ne connaissent rien.
La société civile dit avoir écrit au ministre des Mines pour le retrait des sujets chinois du territoire de Wamba. Cependant, le ministre provincial en charge de l'intérieur espère le développement de cette entité grâce notamment à l'apport des Chinois. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale. Des journées villes mortes dans le sud-est du Nigeria à l'appel des séparatistes ont coûté plusieurs millions de naira à l'économie. C'est ce que révèle un nouveau sondage. Depuis le 9 août dernier, le mouvement des peuples indigènes du Biafra, IPOB, appelle les habitants à ne pas sortir les lundis. Mouvement de grogne des avocats en Centrafrique. Ils ont demandé une audience ce lundi pour remettre un mémorandum au chef de l'État. Depuis le 9 septembre, les avocats ont suspendu leur participation aux audiences à la suite de l'arrestation temporaire sous pression du politique, affirme-t-il, de l'un de leurs confrères.
L'invité.
Notre invité, c'est l'ancien coordonnateur de la visibilité de travaux initiés dans le cadre du contrat sino-congolais. Jean-Marie Kassamba parle d'une évaluation faite à mi-parcours par des experts internationaux et nationaux. Il s'entretient avec J.R. Lungembo.
Monsieur Kassamba, bonjour.
Bonjour.
Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, exige dans l'immédiat l'évaluation du contrat sino-congolais dans son volet infrastructure. Vous étiez dans l'équipe qui a géré en son temps ces projets. Alors comment avez-vous accueilli cette décision?
Bon, c'est une bonne chose de faire une évaluation de tout projet, tout dossier. Encore faut-il savoir, cette évaluation s'est faite sur le plan du contrat lui-même, sur le plan des infrastructures déjà acquises, sur le plan du volet financier de ce qui a été prédestiné à ces infrastructures. Donc, une évaluation est toujours une très bonne chose, mais il faut savoir les conséquences, qu'est-ce que cela va comporter après.
Est-ce que le montant de 2,8 ou même près de 3 milliards de dollars que le gouvernement avait alloué pour ce projet a-t-il été utilisé en bon escient? Combien de routes ont été construites?
Suffisamment de routes, suffisamment d'infrastructures. D'ailleurs, je vous informe qu'il reste encore aujourd'hui des fonds disponibles dans ces cas de ce contrat que la RDC n'a pas encore utilisé. Donc ce qui veut dire que s'il y a des projets d'investissement, des projets d'infrastructure qui sont orientés vers ce partenariat avec la Chine, effectivement la RDC sortira gagnant.
Alors selon les rapports des l'ONG AfriWatch, publiés en 2019, ces méga contrats chinois, n'a pas fait ce que la population attendait. C'est-à-dire, en termes de réalisation, les réalisations ne sont pas à la hauteur des promesses.
Bien au contraire. Je vous rappelle que avant ces contrats, il n'existait pas, même avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, des projets d'infrastructures de grande envergure.
Le même rapport de l'ONG AfriWatch parle de, jusqu'à fin 2017, le Congo n'a remboursé à travers l'entreprise minière Sicomine qu'un peu plus de 83,7 millions de dollars. La cause est que la Sicomine n'a pas généré assez de revenus pour permettre à la RDC de rembourser sa dette. En 3 ans, elle n'a produit que 95 000 tonnes de cuivre, alors que les prévisions étaient de 800 000 tonnes. Alors, il y a crainte des remboursements ou des surendettements pour la RDC?
Non, bien au contraire. D'ailleurs, je vous rappelle que la Chine a offert à la RDC deux engins avant même que la Chine puisse collecter un seul minerai de notre sol. Sicomine, c'est un projet dans lequel il y a une part importante des intérêts de la RDC et Sicomine est plus viable que beaucoup d'entreprises. Et puis, il faut aussi dire que ce partenariat est inscrit dans la durée. Ce n'est pas un contrat de 10 ans, de 20 ans, c'est dans la durée, pour permettre un travail, serein, et avec beaucoup plus de stabilité dans la coopération.
Mais la cellule de communication, ou si vous voulez, de la visibilité des 5 chantiers que vous avez gérés, a consommé pratiquement, semble-t-il, un quart de cet argent qui a été alloué.
Jamais, rien du tout. D'ailleurs, je vous informe que moi, je ne suis que consultant. Je n'avais pas un mandat, on va dire, officiel, une nomination officielle, une ordonnance officielle. Je suis jusqu'à aujourd'hui consultant.
Alors, pensez-vous que le bureau qui était chargé du suivi de ce projet, des bureaux qui a été géré jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, par l'actuel sénateur Moïse Ekanga, sera le seul qui peut faire cette évaluation ou faut-il recourir à une autre expertise indépendante ou carrément la confier à l'IGF?
Non, je pense que ces bureaux travaillaient avec le gouvernement de la RDC, avec les infrastructures de la RDC, étaient peut-être sous l'œil du cabinet du président de la République, comme il y a beaucoup d'agences aujourd'hui qui travaillent sous l'œil du président de la République. Et donc, dans un pays comme le nôtre, il faut toujours avoir de services comme l'IGF, comme d'autres, qui dépendent du président de la République pour une bonne réactivité des choses.
Est-ce que vous ne redoutez rien? Le chef de l'État qui avait dit n'allait pas fouiner dans le passé, et le fait de le faire maintenant, il y a intention de nuire.
Non, moi je pense que dans notre pays, il faut qu'on ait la culture de la continuité de l'État, la culture d'ajouter sur ce qui a été fait. Lorsqu'on remet en cause à chaque fois des choses qui ont été faites, on passe beaucoup plus de temps dans les tergiversations. Bien au contraire, il faut permettre que chaque génération pose des actes, celle d'après continue à poser des actes. Le président de la République avait effectivement dit qu'il n'allait pas fouiner dans le passé pour essayer de construire encore davantage.
Monsieur Jean-Marie Kassamba, merci d'avoir bien voulu nous accorder cette interview.
Merci à vous.
Ce journal prend fin. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le réécouter sur www.radiocapi.net.